Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission et vous raconter comment les psychanalystes que je suis travaillent avec ces patients. Qu'ils soient un adulte, un adolescent, un enfant, un bébé ou même un couple, ou encore toute une famille. Dans un deuxième temps, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté nos premiers podcasts interactifs déjà en ligne sur notre page L'Inconscient. Je vous rappelle la définition de l'inconscient parce que l'inconscient, c'est avec ce mot que j'ai décidé de baptiser notre émission. Qu'est-ce que l'inconscient ? L'inconscient, c'est une force. La force souveraine qui nous pousse, sans nous en rendre compte, à faire ce que nous faisons et à être celui que nous sommes.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de nos adolescents, oui, de nos adolescents, de nos jeunes, et de vous raconter ce que j'ai appris des jeunes garçons et des jeunes filles que je reçois dans mon cabinet. Je vais donc vous parler de la jeunesse et essayer de vous faire entrer dans la tête d'un adolescent pour vivre ce qu'il vit et sentir ce qu'il sent. Avant tout, je sais que beaucoup d'entre vous ont la chance d'être les parents ou les grands-parents de jeunes garçons et de jeunes filles sans trop de problèmes, qui surmontent tant bien que mal les obstacles de cette période troublée de l'existence qu'est l'adolescence. Je sais aussi que vous n'avez nul besoin d'être psychologue pour entretenir une bonne relation avec eux. Je souhaite que mes propos vous soient utiles pour mieux connaître l'âme adolescente et guider mieux encore les enfants que vous aimez. Je voudrais commencer en définissant brièvement l'adolescence. L'adolescence est un passage, le passage obligé qui va de l'enfance à la maturité. Je vais définir l'adolescence selon trois points de vue différents et complémentaires. Un point de vue biologique, un autre sociologique et un point de vue psychanalytique. Du point de vue biologique, nous savons que l'adolescence correspond à la puberté, plus exactement que le début de l'adolescence correspond à la puberté. Qu'est-ce que la puberté ? La puberté est ce moment de la vie où le corps d'un enfant de 11 ans est embrasé par une extraordinaire flambée d'hormones. La puberté, terme médical, désigne justement la période au cours de laquelle se développent les organes génitaux, apparaissent les attributs féminins et masculins, et s'y opère une augmentation impressionnante de la taille. Biologiquement parlant, l'adolescence est donc synonyme de l'avènement d'un corps mûr, sexué, capable désormais de procréer. Pour les sociologues, le terme adolescence recouvre la période qui va de la dépendance infantile à l'émancipation du jeune adulte. Bref, si vous considérez les deux extrémités du passage adolescent, on peut dire que la puberté est au début de ces passages, à l'âge de 11 ans, tandis que l'émancipation y est à la fin, à l'âge de 25 ans. Venons-en à présent au troisième point de vue, le point de vue psychanalytique. Qu'est-ce qu'un adolescent pour les psychanalystes que je suis? Tout d'abord, voici son portrait pris sur le vif. Ensuite, je vous ferai entrer dans la tête de l'adolescent pour vous faire découvrir son vécu intérieur. Le jeune homme ou la jeune fille d'aujourd'hui est un être bouleversé qui, tour à tour, se précipite joyeux au-devant de la vie, s'arrête soudain, accablé, vide d'espoir, pour redémarrer aussitôt, emporté par le feu de l'action. Quelquefois, il est très individualiste et arbore un orgueil démesuré, ou au contraire, il ne s'aime plus, se sent nul et doute de tout. Il porte au nu un aîné qu'il admire, tel un footballeur, à condition que son idole soit diamétralement opposée aux valeurs familiales. Les seuls idéaux auxquels il adhère avec passion et sectarisme sont les idéaux, quelquefois nobles, souvent discutables, de sa bande des copains. Oui, il tient surtout à sa bande des copains. Ceci est tellement vrai que lorsque je reçois un adolescent pour la première fois et qu'il se montre trop fermé, je sais que si je lui demande qui sont ses trois meilleurs copains et comment ils s'appellent, aussitôt son visage s'illumine et sa parole se libère. Vis-à-vis de ses parents, l'adolescent manifeste souvent des sentiments qui sont l'inverse des sentiments qu'il éprouve réellement pour eux. Il leur crie sa rage, alors que le petit enfant qui dort au fond de tout adolescent les aime tendrement. De telles contradictions si fréquentes et si brusques seraient perçues comme anormales à toute autre époque de la vie, mais à l'adolescence, rien de plus normal. Souvent, l'adolescent est un être qui souffre, exaspère ses parents et se sent étouffé par eux. Mais il a surtout, et je tiens à vous le dire, il a une force intérieure, une puissance de création extraordinaire, une force sans laquelle aucune œuvre ne serait accomplie à l'âge adulte. C'est pourquoi je vous dirai que tout ce que nous faisons des biens aujourd'hui, nous les adultes, a été construit avec l'énergie et l'enthousiasme de l'adolescent ou de l'adolescente d'hier. Or, la force créatrice de l'adolescent n'est jamais solitaire. C'est justement à l'âge de l'adolescence que nous comprenons combien l'autre, je vais dire le frère, la sœur, le copain, l'amoureux ou même un professeur, combien l'autre nous est vital pour être soi. Incontestablement, notre jeunesse est l'une des phases les plus fécondes et les plus fraternelles de notre existence.
Docteur Nasio.
Si je devais me confier à vous, je vous dirais que je suis ravi. Oui, je suis ravi. Ravi d'avoir mon âge et fier d'une belle jeunesse qui m'a conduit à être celui que je suis aujourd'hui et qui vous parle maintenant. La jeunesse est plus forte que le temps. les jours s'en vont, jeunesse demeure. Puisque nous parlons des jeunesses, je ne puis m'empêcher de vous réciter ici un vers d'un grand poète latino-américain de la fin du XIXe siècle, Rubén Darío. Le vers que je vais vous lire, c'est peut-être le plus beau vers qu'il ait écrit. Je vous le dis d'abord en espagnol. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. C'est magnifique. Maintenant, laissez-moi le reprendre en français. Jeunesse, divin trésor, tu t'en vas pour ne pas revenir. Quand je veux pleurer, je ne pleure pas. Et parfois, je pleure sans le vouloir. Assurément, ces mots ne sont pas ceux d'un homme plaintif. Rubén Darío ne pleure pas la perte de sa jeunesse. Il pleure la joie de l'avoir vécue. Et c'est dans la nostalgie qu'il revit sa jeunesse et la recrée en écrivant son poème. Revenons à notre adolescent, et en particulier à l'adolescent difficile que nous recevons en consultation. La plupart du temps, c'est un jeune en désarroi qui me consulte. Un jeune qui a du mal à exprimer son malaise avec des mots. Il ne sait pas dire ce qui ne va pas. On ne veut ou ne veut pas le dire. Et c'est à moi, thérapeute, de comprendre intuitivement son vécu intime et de lui souffler les mots pour qu'il exprime son mal-être. Lui souffler les mots avec beaucoup de tact, attention, et sans avoir l'air de l'aider, pour ne pas le heurter. Il supporte pas qu'on l'aide, non. L'adolescent ne sait pas toujours parler de ce qu'il ressent, parce qu'il ne sait pas très bien ce qu'il ressent. Justement, je distingue trois types d'adolescents selon leur comportement et l'intensité de leur souffrance. D'abord, nous avons les jeunes bien portants, qui traversent tant bien que mal les orages qui éclate inévitablement à l'adolescence. Ensuite, et là c'est plus compliqué, nous avons les jeunes ayant des comportements dangereux. Oui, des comportements à risque pour la société et pour eux-mêmes. Mais avant de poursuivre, j'ai une chose importante à vous dire. Sachez que tout comportement dangereux et destructeur signifie que le jeune violent souffre intérieurement. Un jeune violent, par exemple, se scarifie le bras ou brûle une voiture parce qu'il est profondément malheureux. Malheureux avec lui-même d'abord et révolté, enragé contre toute chose qui évoque pour lui l'autorité, le bonheur ou même la beauté. Le jeune violent ne supporte pas le bonheur, que ce soit son bonheur et surtout le bonheur des autres. Nous avons enfin la troisième catégorie d'adolescents. Nous avions les adolescents bien portants, ensuite les adolescents dangereux, et maintenant, troisième catégorie, la plus préoccupante, je dois vous dire, celle des jeunes qui souffrent de troubles mentaux. Parmi ces troubles mentaux, le plus dramatique est incontestablement la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie qui se déclare toujours à l'âge de l'adolescence et qui s'avère souvent difficile à soigner. Un exemple de schizophrénie est le cas, rappelez-vous, de ce jeune qui, dans un accès de délire, a tué aux États-Unis une vingtaine d'écoliers. Et schizophrénie est un mot qui signifie division. Schizo, c'est division en grec. Phrénie, c'est l'esprit, c'est l'âme. La schizophrénie, c'est donc une dissociation, une division de l'âme. Il y a différentes formes de division. Une des formes les plus fréquentes, c'est que il y a une séparation entre le corps et la tête. Le jeune malade sent que son corps ne lui appartient pas. Il fait souvent les gestes. Je me souviens de l'avoir vu à l'hôpital chez de nombreux patients schizophrènes. Les jeunes font souvent les gestes de porter sa main au niveau des yeux, la regarder intensément en la faisant pivoter et se demander si cette main est bien la sienne. Le schizophrène est un patient qui peut être victime d'hallucinations, en particulier d'hallucinations auditives. Il entend des voix qui le commandent. Il peut aussi souffrir d'accès de délire, en particulier de délire de persécution. Et il peut même se suicider, parfois en se défenestrant. Au cours de mon internat en psychiatrie, j'ai souvent été de garde la nuit pour surveiller un dortoir de malades schizophrènes. Je connais bien les patients schizophrènes. J'ai vécu avec eux des moments d'intense émotion, des moments de peur, comme celui de cette nuit que je n'oublierai pas. J'ai dormi dans le petit bureau attenant au dortoir, allongé sur le lit de camp, tout habillé, avec ma blouse blanche, quand soudain, je me suis réveillé en sursaut parce que je sentais une présence inquiétante. En ouvrant les yeux, j'ai eu la peur de ma vie. Une jeune patiente schizophrène était penchée sur mon visage, tout près, très très près, mais fixée d'un regard glaçant. Cependant, j'ai aussi vécu des moments passionnants où j'ai appris à sentir ce que peut sentir un jeune schizophrène et devenir plus compétent pour les soigner. Mais laissons la schizophrénie et rappelons que l'adolescence peut être aussi l'âge d'autres troubles mentaux tels que les TOC. TOC veut dire trouble obsessionnel compulsif. TOC. Obsessionnel parce que c'est une idée qu'on ne peut pas chasser de sa tête et compulsif parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire ce que l'idée nous dit de faire. Un autre trouble fréquent est la phobie, comme par exemple la phobie scolaire.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Je dois dire que mon travail de thérapeute m'apprend jour après jour comment fonctionne un jeune dans sa tête. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler maintenant. C'est ça que je voudrais vous transmettre. Je vais donc vous faire entrer dans la tête de l'adolescent que nous avons tous été, ou dans la tête du jeune que vous côtoyez. Quand je suis assis devant un garçon ou une jeune fille qui me consulte, j'essaie de saisir le malaise intérieur qui le déstabilise. Quel est ce malaise? En fait, il y en a deux. En regardant son visage et ses mimiques, en observant son allure ou en écoutant les mots qu'il m'adresse, je vois toujours en lui le petit enfant qu'il a été. Comme si l'adolescent était une créature hybride, faite d'un corps d'adulte surmonté d'une petite tête d'enfant, incapable de contenir le torrent des pulsions sexuelles et des pulsions agressives qui bouillonnent en lui. Mais il est aussi un autre malaise. Quand je me trouve en présence d'un adolescent, je n'oublie pas que, mine de rien, il est en train de quitter son enfance. C'est une perte silencieuse, sourde, qui ne se voit ni se ressent, mais qui se poursuit inexorablement jusqu'à la conquête de la maturité. Voici donc le deuxième malaise intérieur de l'adolescent, faire le deuil de son enfance. Je viens d'utiliser le mot « deuil ». Mais qu'est-ce qu'un deuil? Qu'est-ce, par exemple, que le deuil d'un proche qui vient de nous quitter? Je voudrais le définir. Le deuil est le temps qu'il faut pour accepter de vivre avec l'absence de celui ou de celle que nous aimons et que nous venons de perdre. Or, accepter de vivre avec l'absence signifie apprendre à aimer différemment l'être cher que nous avons perdu. J'aimais ma mère quand elle était vivante et je l'aime toujours autant, mais différemment maintenant qu'elle n'est plus là. De même, l'adolescent doit lui aussi accepter de ne plus être l'enfant qu'il a été, et devenu adulte, se souvenir de son enfance avec tendresse. Avant de conclure, je voudrais répondre à une question. Comment savoir si un jeune est devenu adulte? Bien sûr, personne ne devient jamais complètement adulte. Cependant, je repère deux indicateurs de maturité. Je les appelle comme ça, des indicateurs de maturité qui attestent qu'un adolescent a cessé d'être adolescent. D'abord, les jeunes ont compris intuitivement qu'être un homme ou une femme, c'est se permettre de régresser à l'enfance quand on veut et comme on veut, sans pour autant se sentir rabaissé. Ensuite, deuxième indicateur de maturité, le jeune homme ou la jeune femme n'est pas gêné d'être obéissant. Ce n'est pas parce que nous répondons aux exigences d'un supérieur hiérarchique ou que nous nous plions à une discipline que nous nous avilissons dans une soumission indigne. Aussi, être adulte, c'est vivre sans crainte de jouer comme un enfant et sans honte de se montrer obéissant. Assurément, il existe beaucoup d'autres indices de maturité, comme par exemple qu'un jeune est devenu adulte lorsqu'il n'est plus dépendant financièrement de ses parents. Voilà, j'aimerais maintenant rendre hommage aux adolescents d'aujourd'hui et au-delà à l'adolescent de toujours. L'adolescent perd son enfance, son corps d'enfant et l'univers familial dans lequel il a grandi, mais il garde en lui un trésor, son identité la plus intime, ce qu'il est. Et il gagne enfin la maturité. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire. Ce que notre identité, c'est-à-dire le sentiment d'être nous-mêmes, prend toujours le visage souriant d'un enfant, de l'enfant innocent que nous avons été. Je pense ici aux mots du poète qui a chanté merveilleusement la présence vivante de l'enfant au cœur de l'adulte. C'est avec ces mots inoubliables que je voudrais conclure. Certes, ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, une fois l'heure venue, c'est lui qui retrouvera sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière et entrera le premier dans la lumière sacrée. Je laisse maintenant ici les mots du poète et je vous dis ce que je me dis à moi-même. Quand quelqu'un meurt, à l'instant même de la mort, c'est toujours un enfant qui meurt, un enfant innocent qui a peur.
L'inconscient avec le docteur Nazio.
Vous venez d'entendre ce que j'ai appris dans mon travail de thérapeute avec les adolescents. Maintenant, nous allons écouter les nombreuses questions qui m'ont adressées les auditeurs du podcast déjà en ligne sur la page L'inconscient sur franceinter.fr.
Sans y croire, mais déjà je l'ai.
l'inconscient. Rendez-vous sur franceinter.fr.
Eh bien, maintenant, c'est à vous de me poser vos questions. Je vous écoute.
Votre émission sur l'adolescence m'a beaucoup intéressée. J'ai une question sur le positionnement délicat des parents. J'ai deux ados qui sont plutôt dans la catégorie bien portant, ce qui n'empêche pas les conflits, très souvent au sujet du temps d'écran, par exemple. Et là, j'imagine que je ne suis pas la seule. Et je suis toujours tiraillée entre laisser tomber ou insister. Parce qu'avec mon fils de 16 ans, le point de rupture n'est jamais très loin et j'ai souvent peur qu'il rompe le dialogue ou qu'il parte en claquant la porte. Ce qui fait que j'ai plutôt tendance à laisser tomber, ce qui ne me satisfait pas forcément. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner ? Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, merci pour votre question, madame. Si vous me permettez, l'impression que j'ai, c'est que c'est vous qui craignez ce point de rupture. Et je dois vous dire que c'est très important de ne pas faire sentir à l'adolescent que vous êtes vous-même peureuse de ce qui pourra se passer. Il faut savoir que nos enfants, nos adolescents, sentent parfaitement, perçoivent parfaitement ce que nous ressentons, comme par exemple l'anxiété ou l'angoisse ou la colère, ou la peine, ou la tristesse, ou l'ambition. Bref, ils savent percevoir parfaitement ce que nous ressentons sans qu'il y ait des paroles. Et là, si vous me permettez, j'ai l'impression que vous êtes trop soucieuse. Et ils le sentent, cela. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que vous ayez confiance d'abord en vous. Avoir confiance signifie que vous ne doutez pas d'une issue positive avec lui. Faites-lui sentir que vous êtes sûr que ça va bien se passer, quelles que soient les péripéties. Faites-lui sentir que vous êtes tranquille. C'est fondamental. Ça a l'air, excusez-moi, banal, mais c'est essentiel. Il faut faire sentir à notre adolescent deux choses. Premièrement, que je suis tranquille du futur, de comment les choses vont évoluer avec lui. Et deuxièmement, surtout, faites-lui sentir que vous croyez toujours en lui.
Bonjour, c'est Laurence. Merci pour votre émission. Ma question porte sur votre perception de l'âme. Vous dites mieux connaître l'âme adolescente. Qu'entendez-vous par âme et quelle différence avec l'inconscient ? Merci, à bientôt.
C'est bien votre remarque sur l'utilisation du terme âme. C'est un terme qui est vague, certes, mais qu'il dit bien ce que je veux faire entendre à l'auditeur. C'est-à-dire, c'est l'intérieur, l'âme, c'est l'intérieur du sujet, de l'être. C'est ce qui est en lui et qui détermine ses actes. Bien sûr, c'est l'inconscient, c'est ce que j'appelle l'inconscient, mais je n'ai pas voulu utiliser tout le temps le terme d'inconscient et je me suis servi de ce terme qu'il a une connotation philosophique, poétique, et que j'aime bien. Et vous m'entendrez quelquefois l'utiliser.
Oui, bonjour Martine. Je vous remercie, Monsieur Nazio, pour tout ce que vous nous avez dit sur l'adolescence. Cela m'éclaire. Cela m'aide beaucoup pour mieux comprendre les problèmes que j'ai avec mon filleul, Samy, 13 ans, dont je m'occupe en permanence. Je voudrais vous poser une question sur le fait qu'il me fatigue parce qu'il n'arrête pas de poser des problèmes dont je suis très soucieuse. Pouvez-vous me dire quels moyens il y aurait pour calmer son agitation ? Merci pour votre réponse. Au revoir.
Vous savez, je viens de répondre à madame tout à l'heure. Eh bien, voici quatre conseils que je vous donnerai à vous, Martine, pour être au mieux devant votre adolescent, votre filleul, dont vous vous occupez souvent. Premièrement, faites sentir à l'adolescent que vous croyez toujours en lui. Ça, c'est fondamental. Quelle que soit la circonstance, il a volé, il était en garde à vue, il a fait des choses graves, vous êtes toujours là, vous ne bougez pas de cela, vous lui faites sentir que vous croyez toujours en lui. C'est-à-dire que vous l'aimez, que vous croyez en lui en tant que personne, indépendamment de l'acte qu'il a commis. Ça, c'est la première attitude de fond que je me permets de conseiller à tous les parents. Deuxièmement, n'humiliez jamais votre adolescent. Troisièmement, aimez-le tel qu'il est et non tel que vous rêvez qu'il soit. Quatrièmement, ça, c'est des personnes qui m'avaient posé la question souvent, évitez à tout prix tout geste d'agressivité physique. Vous vous en voudrez toujours. Quand vous êtes très en colère, quand votre colère devient incontrôlable, à ce moment-là, vous quittez la pièce, vous partez. Ne vous laissez pas, même pas pousser l'adolescent. C'est toujours des situations de grands risques, car si l'adolescent est un grand gaillard, il peut vous bousculer ou vous rendre l'appareil. Voilà les quatre attitudes de fond que les parents doivent avoir, et là je profite que la marraine que vous êtes doivent avoir avec votre filleul.
Bonjour, c'est Marianne. Donc j'appelais par rapport à mon fils qui est au potentiel intellectuel, hein, donc il a une précocité. Donc c'était pour savoir pour ses enfants, donc ils sont assez matures au moment de l'adolescence. C'était pour savoir est-ce qu'ils ont une crise d'adolescence, voilà, qui est différente parce qu'ils comprennent beaucoup plus les choses, ils sont plus dans la retenue, ils n'osent pas trop, contrer les interdits. Hein. Est-ce que c'est plus compliqué pour eux, par ce fait, parce qu'ils vont pas trop entraver les règles. Et est-ce qu'à l'adolescence, il doit obligatoirement y avoir une opposition entre, est-ce que les parents et les enfants doivent toujours s'affronter, ou est-ce que ça peut bien se passer en ayant les enfants qui sont plutôt dans l'écoute des parents et à bien faire les choses. Merci. Au revoir.
Marianne, merci de votre question. Il y a plusieurs réflexions qui me viennent en vous écoutant. D'abord, vous me parlez de que votre enfant est haut potentiel. C'est un peu à la mode de diagnostiquer ce terme de haut potentiel. Je l'ai déjà dit à des parents qui viennent me consulter, même si c'est vrai, je ne discute pas qu'il soit haut potentiel ou non. Simplement, je conseille aux parents de ne pas trop accentuer cet aspect du diagnostic. Il ne faut pas que notre enfant sente qu'il appartient à une classe des personnes séparées du reste. Notre enfant ne doit pas se sentir spécial, ni meilleur, ni pire. Surtout avec des termes comme « haut potentiel ». Donc, s'il vous plaît, ne les catégorisez pas dans la mesure du possible. Ce qui vous conduit, par exemple, à me poser cette question sur « puisqu'il est différent, est-ce que l'adolescence va être différente ?» Non, non, non. L'adolescence sera, pour votre enfant, comme l'adolescence de tous les enfants bien portants. Heureusement, il ne présente pas de troubles. Moi, vous ne me le dites pas, des troubles particuliers. Donc, réponse, oui, il va avoir les mêmes attitudes, la même fébrilité que je pu faire état dans mon récit de tout à l'heure. C'est-à-dire, oui, ça va passer par une crise normale d'opposition, plus grave, moins grave. Il peut y avoir des adolescents plus faciles qui traversent l'étape de l'adolescence avec une grande tranquillité et calme dans la famille, mais la plupart des adolescents sont des adolescents avec lesquels il faut agir. Et d'ailleurs, à ce propos, je rappelle ce que je dis à des parents qui viennent me consulter pour des petits-enfants. Alors, quand il y a le petit-enfant de 4 ou 5 ans, je leur dis toujours, attention, vous préparez l'adolescence. L'adolescence se prépare. Ça veut dire qu'à partir des 5 ans, il faut déjà créer un rituel. Je n'utilise pas le mot discipline, mais un cadre de vie que l'enfant va respecter. Par exemple, il y a des parents qui me disent « Mais docteur, mon enfant qui a 4 ans, il ne veut manger que du chocolat toute la journée !» Je dis « C'est très bien !»« Comment c'est très bien? Mais il va tomber malade !» Non, il ne tombera pas malade. Laissez-le, vous lui donnez tous les chocolats qu'il veut. Mais, attention, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Et si possible qu'il s'assoie à table. Donc, ce qui compte, c'est le cadre, c'est le rituel. Peu importe qu'est-ce qu'il mange, par exemple. Ou bien, pour les petits enfants, le bain le soir, le dîner, le coucher sont des moments essentiels. Et ces moments essentiels préparent l'adolescence.
Inconscient sur France Inter. Docteur Nasio.
Nous poursuivons, chers auditeurs, avec les questions que vous m'avez laissées sur notre site L'Inconscient.
Bonjour Docteur Nasio, je suis psychologue clinicienne et je voulais d'abord commencer par vous remercier de nous transmettre vos réflexions et votre expérience clinique par l'intermédiaire de ces podcasts. Je trouve ça très enrichissant. Je suis également maman d'une adolescente de 16 ans qui avait une relation très fusionnelle avec son papa pendant l'enfance et qui aujourd'hui manifeste de la rébellion et est très très dure avec lui. Ce qui le rend assez malheureux. Je voulais savoir ce que vous en pensiez de ces mouvements là affectifs et ce que vous pouviez m'en dire. Au revoir.
Eh bien, ma réponse est simple. Cette relation aujourd'hui difficile et de rejet, demain va changer. Il faut savoir que nos enfants bougent dans la relation affective avec la mère ou le père. Combien de fois une maman qui est venue me consulter pour me dire « Docteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ma fille qui a 4 ans, maintenant, elle est tout le temps avec mon mari. Avant, elle était collée à moi et maintenant, elle est tout le temps avec mon mari. Est-ce que ça va être toujours comme ça ?» Non, madame, ne sera pas toujours comme ça. Ça bouge, ça varie. Et donc, c'est très important que vous soyez, que le père, surtout, ne se sente pas affecté outre mesure. Qu'il soit tranquille et confiant. Elle a besoin, en ce moment, d'avoir ce rejet. Laissez-la. Et puis, vous voulez que je vous dise, rendez-la jalouse. Que le père, par exemple, fasse sentir par moment que, bon, puisqu'elle n'est pas envie d'être avec lui, eh ben, il va faire des choses sans elle. Donc, c'est très important que le père se maintienne tranquille, qu'il soit confiant que les choses vont bouger.
Merci pour votre podcast sur l'adolescence qui était très intéressant et très beau, je trouve. J'aurais une question au sujet de mon fils adolescent de 16 ans, presque 17. Lui, il ne se plaint pas trop, mais en fait, il redouble sa seconde et il a beaucoup de mal au lycée. Il a beaucoup de mal parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il veut faire dans le futur. Sa seule ambition, c'est de devenir riche, mais il n'a aucune idée comment. Et voilà, je m'en fais pour lui et je me demandais comment l'accompagner au mieux dans cette transition. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Au revoir.
Merci pour votre question. Ma réponse est simple. Laissez faire le temps. C'est très bien qu'il veuille devenir riche, pourquoi pas. Au moins, il y a le problème le plus sérieux avec des adolescents, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre société et le système scolaire exigent de nos jeunes enfants des décisions trop précoces en vue de tel ou tel métier futur. C'est absurde. Et quand j'écoute que vous parlez de que votre enfant, il veut devenir riche, mais c'est très bien qu'il veuille devenir riche. Il va mûrir tranquillement et il comprendra qu'il y a des difficultés. Mais accompagne-le, laissez-le sentir, laissez-le croire que vous respectez cet idéal. Et petit à petit, il va mûrir.
Oui, bonjour docteur, c'est Isabelle, grand-mère de 10 petits-enfants. J'aurais aimé, docteur, que vous traitiez peut-être la violence verbale dans une famille telle que moi, malheureusement, avec mon mari, nous l'avons vécue, avec 3 enfants. Il y a beaucoup d'amour dans notre famille, mais je vois que mes enfants adultes, aujourd'hui, mariés avec des enfants, reproduisent le schéma de la violence verbale et je souffre beaucoup, évidemment, à la fois de ce que j'ai vécu moi-même et de ce que j'ai aussi, malheureusement, transmis en négatif à mes enfants. Mon mari vient de mourir. Il est mort brutalement en 1 quart d'heure, en pleine forme, dans la fleur de l'âge, 74 ans. Voilà. Aujourd'hui, je réfléchis seule face à cette violence qui me tombe dessus pendant les vacances et je vois le désastre que ça produit sur les enfants. Moi, de mon côté, j'essaie, avec la prise de conscience que nous avons faite, mon mari et moi, d'aborder les petits-enfants avec peut-être plus de calme qu'avec mes propres enfants. Voilà. Merci infiniment. Je continue le chemin de la vie, le chemin du progrès, peut-être de la remise en cause aussi, mais surtout, surtout le chemin de l'amour. Au revoir, docteur.
Madame, ce n'est pas une question que vous me posez. C'est une affirmation magnifique. Et c'est très bien que les autres auditeurs l'aient entendue. Je dois vous dire que tous les parents, nous transmettons des bonnes choses et des mauvaises choses à nos enfants. C'est inévitable. Nos parents l'ont fait avec nous, nous le faisons avec nos enfants. Il faut savoir que nous transmettons pas tellement ce que nous disons, pas tellement ce que nous savons, pas tellement ce que nous faisons, nous transmettons ce que nous sommes. Ça, je ne le savais pas au début. Ça veut dire que je peux passer mon temps à expliquer à mon fils ou à ma fille de faire ceci, de faire cela, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et que lui perçoit, et sans qu'il s'en aperçoive, ce que je suis moi, ce que je sens moi, ce qui m'anime, ce qui est profond en moi. Et c'est ça qui est transmis. Donc, madame, merci de votre déclaration, je dirais, de vos paroles. Et concernant la violence verbale, eh bien, vous faites aujourd'hui le mieux possible. Vous êtes une grande mère et vous avez, avec le deuil que vous venez de vivre, et votre âge, et l'expérience, et le bilan que vous faites, un bilan de sagesse que vous faites de votre vie et de votre rôle de mère et de grand-mère, eh bien, c'est le mieux pour que vous puissiez intervenir de façon intuitive pour que la violence verbale disparaisse ou diminue. Merci. Un mot simplement, je m'adresse à l'ensemble des auditeurs parce que vous avez été nombreux à me demander si je pouvais recevoir en consultation votre enfant ou votre adolescent. Je voudrais que vous sachiez qu'actuellement, j'ai dépassé mon quota de patients enfants et adolescents et que je ne peux plus recevoir de nouveaux patients enfants ou adolescents. Voilà, merci de tenir compte de cette remarque. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir un thème éternel comme celui de la jeunesse. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier Audrey Ripouille pour la réalisation de notre émission et des podcasts, ainsi que Anne-Laure Cochet à la technique. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h. D'ici là, je vous invite à aller sur la page L'Inconscient sur franceinter.fr où vous pourrez découvrir nos deux prochains épisodes en podcast. Le premier consacré à l'histoire de Clara, un petit bébé déprimé, et le second consacré à une maladie mentale grave, la mélancolie. Merci d'écouter ces deux podcasts et s'ils vous inspirent, n'hésitez pas à m'adresser vos remarques et vos questions sur la page L'Inconscient. J'y répondrai avec plaisir dimanche prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.